BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Il fait chaud là sur la France, c'est votre climatiseur BFM Bourse, on vient climatiser vos portefeuilles, mettre vos investissements à la bonne température et c'est jusqu'à 18h. Bienvenue à tous, on est ravis de vous accompagner, en fil rouge il est là, Antoine Larigauderie, rebonjour Antoine.
Heureux, bonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
Direction, les marchés aimeraient bien en trouver une et pour l'instant c'est compliqué, hein. Moins 0,29% pour le CAC 40 qui limite les dégâts, on est à 8396 points, puis surtout la tech se porte bien, hein. Plus 0,78% pour l'Euronext Tech Leaders. L'Eurostoxx 50 lui est dans le vert, plus 0,49%. Et du côté de Wall Street, on est un petit peu mitigé aussi, plus 0,02 pour le Nasdaq, le Dow Jones plus 0,52. Mais à noter qu'à Paris, il y a un gros poids lourd qui est en forte baisse et qui biaise un petit peu la tendance, c'est Hermès qui recule de 5,3% à 1630 € avec une opinion négative de Kepler Chevreux.
Oui, qui pèse lourd effectivement sur Hermès, lanterne rouge du CAC 40. En gros, les marchés font une petite pause, le CAC 40 en tout cas après 5 semaines de hausse, l'Eurostoxx 50 lui gagne 0,4%. Suivra cette semaine dans la tech Micron qui va publier ses résultats, ce sera mercredi soir. Et puis un enjeu plus large dans l'IA, les modèles chinois gagnent de plus en plus de parts de marché apparemment. Les modèles chinois en effet moins chers que les modèles américains. On en parlera, hein, les entreprises manifestement privilégient le coût à la puissance des IA. Et puis on parlera aussi des Skynix qui pour la première fois devient la première capitalisation sud-coréenne quand même. Ciao Samsung, Samsung Electronics est devancé par Skynix pour la première fois en plus de 25 ans. C'est quand même un tournant pour la bourse sud-coréenne. Et ben nous on se demandera en Europe, tiens, si une autre valeur tech pouvait dépasser ASML, ce serait laquelle? C'est une question qu'on posera à nos experts et à 17h35, tout à l'heure, vous découvrirez leur portefeuille idéal. BFM Bourse sur toutes les batailles de marché et BFM Business. Alors, à l'affût de l'actualité politique très lourde aujourd'hui, d'abord cette démission de Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Il a annoncé ce matin son départ du 10 Downing Street, 2 ans après sa nomination. Il était de plus en plus isolé après la victoire du Labour et d'Andy Burnham à une législative partielle. Le Royaume-Uni s'apprête à connaître son 7e Premier ministre en 10 ans, un record en quasiment 2 siècles. Les taux britanniques se tendent pas trop parce que le successeur annoncé de Keir Starmer promet de respecter les règles budgétaires. La mort d'Alan Greenspan, c'est aussi au cœur de l'actualité du jour. Alan Greenspan, le légendaire patron de la Fed, il est décédé aujourd'hui à l'âge de 100 ans. Surnommé l'oracle ou le maestro, il a été président de la Fed de 1987 à 2006. On lui doit des adages très connus ou des expressions devenues très courantes en bourse, par exemple, sur l'exubérance irrationnelle des marchés. Enfin, dans le secteur de la défense, cet accord entre Paris et Berlin est sur la gouvernance de KNDS. La France et l'Allemagne, en effet, ont l'intention de devenir co-actionnaires de KNDS au cœur du projet de char du futur. L'accord ouvre la voie à l'une des plus importantes introductions en bourse en Europe ces dernières années. Introduction en bourse dont on pourrait connaître des détails, voir la date dans les tout prochains jours. Ce sera à suivre donc KNDS. D'ici là, on est à vos côtés. C'est BFM Bourse. On joue dans votre camp. Bienvenue à tous. On est ensemble, en direct. Antoine, le CAC 40, on parlera de 2CRSI dans un instant parce que je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui nous demandent justement quel regard, quelle vision on doit porter sur 2CRSI qui a repris sa cotation aujourd'hui après une communication de la direction face aux accusations du fonds Grizzly Research. La direction a communiqué, il y a eu un webinaire. Bon, alors il y a ceux qui trouvent que la direction a mal communiqué, d'autres qui trouvent qu'elle s'en sort super bien. Entre les deux, on a un titre qui cet après-midi recule de 3%. Mais avant d'entrer dans le détail de 2CRSI, la tendance globale, c'est un début de semaine tranquillou là sur les indices.
Moins 0,32% pour le CAC 40, 8395 points pour l'indice vedette de la Bourse de Paris. On reste quand même sur des niveaux autour des 8400. À noter que la tech se détache encore très bien avec ST Micro qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 3,39 à 70,14. On a Soitec, encore une fois plus forte hausse du SBF 120, mais alors plus 10,5% à 130,95 €. Alors on achète peut-être à crédit des bonnes performances du côté de chez Micron, hein, il faut bien dire. Ce sera la grosse actu tech de la semaine. Sinon, à signaler des titres un petit peu plus conservateurs en tête des progressions du CAC, un Carrefour qui gagne 3,4% à 16,08 €. Encore nos spécialistes de l'intelligence électrique, le Grand Plus de 18, 154,80 €, Schneider Electric plus 1,24, 292,85. Sinon, à la baisse, on en a parlé, Hermès pèse lourd avec une opinion négative de Kepler Chevreux. Le titre recule quand même de 5,3% à 1629,50 €. Évidemment, à la suite, on a LVMH qui perd 1,8%. 10% à 489,90 €. Et puis, dans le même ordre d'idée, Pernod Ricard, moins 2,37, 62,62 €. Et ici, Essilor Lofotica, moins 2,13, 169,85 €.
Thibaut François est avec nous, Fastia Capital. Rebonjour Thibaut, en fil rouge cet après-midi. Un mot quand même aussi de Pierre et Vacances, qui peut-être va finir par quitter la cote, quitter le marché action dans quelques semaines. On verra. Le titre gagne 4% aujourd'hui parce que Pierre et Vacances fait l'objet d'une offre amicale d'un fonds d'Abu Dhabi à 1,90 € par action, coupon détaché. Alors, comment vous regardez cette offre, son prix, la réaction du titre également, puis comment vous dessinez un avenir à Pierre et Vacances désormais si les Émiratis prennent le contrôle du capital?
L'OPA, elle est amicale juste pour les dirigeants et juste pour les actionnaires majoritaires, hein, parce que elle est pas forcément très amicale pour les actionnaires minoritaires. Donc effectivement, ça pourrait sortir de bourse pour aller sur un fonds Emirates. On va dire que la proposition de prix est vraiment extrêmement basse. Les dirigeants ont bien fait leur taf, hein, depuis 4 ans. Il y a une super redressement. Maintenant, on est sorti de bourse à 4 ou 5 fois l'EBITDA sur Pierre et Vacances. C'est quand même extrêmement faible. Alors bien sûr qu'il y a eu une augmentation de capital. Bien sûr que les financiers sont rentrés il y a 4 ans. Ils ont envie de sortir. Maintenant, sortir dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est pas forcément très très bon pour les actionnaires minoritaires. Pour rappel, l'augmentation de capital qui a eu lieu en 2022 pour restructurer le groupe, il y avait des bons de souscription qui ont été émises et donc des nouvelles actions qui auraient dû être émises avec des objectifs qui étaient à 2,75 € sur les prix. Là, on est très loin des 2,75 €, donc ça veut dire qu'ils rachètent aujourd'hui, à mon avis, à vil prix. Alors, est-ce que c'est une première proposition ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce serait vraiment dommage que Pierre et Vacances sorte dans ces conditions-là. C'est un groupe qui a été bien redressé, qui est aujourd'hui qui est rentable, qui a une capacité d'investir et surtout qui est sur une thématique touristique qui est extrêmement forte. C'est du tourisme de proximité. Avec tout ce qui se passe à droite et à gauche, c'est vrai que le tourisme de proximité reprend un petit peu ses lettres de noblesse. Et donc, je pense que le cours actuel ne représente pas la valeur intrinsèque du groupe à l'instant T. Donc, on espère une révision du prix dans les prochaines semaines.
Oui, alors en tout cas, ce titre, il gagne 3,5% en ce moment. C'est vrai qu'on attend une hausse du tourisme en Europe par an, tout au long des prochaines années, de 6%. 6% de hausse du tourisme par an en Europe. Pierre et Vacances peut-être bien positionné pour en profiter. Et désormais, quand même, imaginons qu'effectivement, Pierre et Vacances devienne un groupe Emirati, hein, ben voilà, et oui, Emirati, sous pavillon Emirati, on peut imaginer que l'accélération de la montée en gamme va se faire. Enfin, le groupe tente de monter en gamme, mais on imagine que ça ira encore plus vite avec les Emirati.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait l'objectif, hein, c'est clair. Ça me rappelle un petit peu le dossier Club Med à l'époque, où effectivement il y a eu une restructuration de Club Med et une vision très haut de gamme du métier. Et je pense qu'effectivement le Pierre et Vacances, avec des emplacements qui sont extrêmement de qualité partout en France, je pense qu'ils vont se diriger vers du luxe un peu plus haut de gamme, supprimer les entrées de gamme pour la clientèle et vraiment se focaliser sur la partie luxe. Qui est un marché qui est beaucoup plus margé que l'entrée de gamme sur la partie touristique.
Oui, on aurait un Pierre et Vacances un petit peu à mi-chemin, peut-être à terme. On verra entre ce qu'il est aujourd'hui, un groupe d'accès moyen de gamme et Club Med qui, pour le coup, entre dans le luxe. Là, on aurait peut-être un Pierre et Vacances qui essaierait de se positionner désormais à mi-chemin entre ces deux modèles. À suivre, en tout cas, le titre gagne un peu plus de 3% cet après-midi. De CRSI, on se lance, Thibaut, sur de CRSI. Avec donc les accusations de Grizzly Research qui estime que le chiffre d'affaires est trafiqué, hein, de CRSI. Voilà ce qu'a dit ce fonds de vente à découvert. Depuis, la direction, ça y est, a communiqué avec un webinaire et une communication un peu plus articulée aussi autour du week-end. Le titre a repris sa cotation. Il perdait 43% en fin de semaine et il perdait encore 20% ce matin à la reprise de cotation. Cet après-midi, on n'est plus qu'à moins 3. C'est-à-dire que la baisse s'atténue un petit peu, Thibaut. Comment vous regardez la riposte de la direction depuis ce week-end face aux accusations de Grizzly Research?
C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur 2C1SI. L'attaque a été violente. Ça c'est le premier constat. Effectivement, on voit bien que peu importe si c'est vrai ou pas vrai, un vendeur à découvert peut vendre la veille, raconter n'importe quoi ou presque dans un communiqué. Encore une fois, je dis pas que c'est vrai ou faux ce qu'il y a dans le communiqué, mais en tout cas, il peut faire un petit peu ce qu'il veut sur le marché. Et derrière, l'entreprise en souffre dans sa globalité. Donc ça, c'est un point, et je trouve toujours scandaleux de pouvoir faire ce genre de choses et que ça soit pas puni par l'AMF. On est suffisamment surveillés aujourd'hui, et je pense que les Américains devraient être aussi surveillés que nous, Européens. Cela étant dit, maintenant effectivement le rapport, si on le détaille, il y a des choses qui sont effectivement à regarder, notamment le contrat de 610 millions de dollars qui avait été annoncé lors de l'augmentation de capital en 2024. Effectivement, ce contrat-là, je pense que la communication a été au mieux perfectible. Je pense qu'effectivement ce contrat n'est toujours pas en process, n'est toujours pas délivré et en tout cas n'est toujours pas en production. Et donc effectivement les interrogations de Grizzly sur la véracité de ce contrat sont réelles. Surtout qu'il y a, en tout cas, il y a des créations de boîtes qui se sont faites au même moment aux États-Unis. Donc, effectivement, est-ce que ce contrat de 610 millions de dollars est réel? Donc, ça, c'est une première question. Maintenant, sur ce qui s'est passé depuis 2024, on a vu qu'il y a l'explosion de l'intelligence artificielle et notamment, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et tout ce qui est data center qui explose un petit peu partout. Et c'est vrai que je pense qu'en tout cas, depuis 2025, et les contrats qui ont été délivrés, je pense qu'ils sont réels. Et donc, de C1SI, avec son dirigeant, a essayé de prouver la véracité des choses en montrant un petit peu effectivement les usines qu'il y a aux États-Unis ou en Europe, et effectivement on s'aperçoit que il y a réellement des contrats derrière. Donc bien sûr, il y a des doutes sur ce qui s'est passé avant 2024 ou en 2024 avec ce contrat de 610 millions de dollars. Maintenant, aujourd'hui, avec les contrats qui ont été rapportés et notamment des clients qui ont quand même donné un blanc-seing ou en tout cas un tampon sur les réseaux sociaux. Je pense à Nvidia, par exemple, le responsable Nvidia sur la partie data center a donné son accord. Oui, on est bien client. Oui, il y a bien du chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que ce sont des éléments qui sont factuels aussi et qui vont dans le sens de DCR ici. Donc maintenant, le problème, c'est que le mal est fait. Donc maintenant qu'on a un doute sur la valeur, c'est effectivement très difficile d'aller investir sur 2C1SI les yeux fermés. On va être obligé d'être beaucoup plus vigilant et regarder un petit peu la véracité des chiffres. Et je pense que, la confiance va revenir, à mon avis, d'ici quelques mois. Mais c'est vrai qu'à court terme, ça va rester extrêmement volatile et c'est extrêmement difficile de se positionner sur le dossier 2C1SI aujourd'hui.
On en reparlera tout à l'heure dans la famille BFM Bourse et puis en fin d'émission avec Aymeric Blond qui nous rejoindra aussi, qui est en train d'examiner tout ça, c'est RSI qui limite ses pertes cet après-midi à moins 3%. Dernière question dans la tech européenne, parce qu'on a vu en Corée du Sud un séisme quand même. Samsung n'est plus la plus grosse capitalisation de la bourse de Séoul pour la première fois en 25 ans quand même. Quelqu'un lui passe devant et ce quelqu'un, c'est spécialiste des cartes mémoire SK Hynix dont on parle tout le temps. En Europe, si la même chose devait arriver à la plus grosse capi, à savoir à ASML, ce serait qui dans l'univers de la tech notamment pourrait passer devant ASML? S'il fallait en imaginer une pour la suite, Thibaut.
Le problème, c'est pour moi, c'est inimaginable aujourd'hui. Ils ont tellement d'avance sur tout le monde en termes de capitalisation boursière que c'est juste incroyable. Alors, rendez-vous compte, ASML est pratiquement trois fois supérieur à la deuxième capi européenne qui est LVMH. Et je ne vous parle pas des autres techs. Donc on est juste à des allées-lumière des autres entreprises technologiques. En plus, on n'est pas forcément leader sur la partie européenne par rapport aux Américains et par rapport aux Chinois. Donc c'est vrai que je pense qu'ASML n'a pas trop de soucis à faire d'un point de vue technologique et d'un point de vue capitalisation boursière.
Merci beaucoup Thibaut François avec nous de Fastia Capital. Le pétrole recule cet après-midi sous les 78 dollars le baril de Brent. Les États-Unis lèvent les sanctions sur le pétrole iranien jusqu'au 21 août. Voilà, c'est important de le dire quand même. Jusqu'au 21 août, les sanctions sont levées sur le pétrole iranien, d'où cette baisse des cours, le Brent à 77,87 $. Et vous l'entendez, Marc Giraud nous appelle, HMG. Bonjour Marc.
Bonjour Guillaume.
Vous venez en effet livrer à nos auditeurs et téléspectateurs une idée de valeur en plus pour ceux qui voudraient compléter leur portefeuille. Vous avez 2 minutes 30. Êtes-vous prêt Marc?
Je suis prêt, Guillaume.
Alors, vous êtes un peu une espèce en voie de disparition parce que vous faites partie de ceux qui aiment bien Worldline et vous pensez qu'il y a encore du potentiel sur cette valeur. On peut rappeler d'abord ce que fait Worldline, Marc?
Oui, Worldline, en résumé, ouais, c'est une entreprise qui construit et qui fait fonctionner la tuyauterie informatique qui, lorsque vous payez chez un commerçant en ligne, fait en sorte que le commerçant est crédité de votre achat et vous êtes débité. De là à dire que j'aime beaucoup Worldline, non, mais c'est une idée qui me titille en ce moment.
Eh bien, écoutez, Marc, c'est formidable. La liaison n'est pas top. On va essayer de vous rappeler dans un instant, parce que c'est vrai qu'on sent que c'est parti pour être assez instable, là, cette liaison. On va essayer d'améliorer les choses. D'abord, Juliette Cohen est avec nous aussi pour CPRAM. Bonjour, Juliette. On reparlera de Worldline hein, dans un instant, bien sûr. Dans un contexte macroéconomique, alors, particulier, parce que, Juliette, les banques centrales, quand même, relèvent leurs taux. C'est le cas de la BCE, en tout cas. On sent que la Fed le fera également. Et puis, alors, le contexte, il est encore plus particulier en Europe, là, en ce moment, avec ce qu'on est en train de vivre. Il faut qu'on en parle, qu'on en dise un mot aussi. D'ailleurs, du côté côté des valeurs, ce qui se passe, cette chaleur très forte, cette canicule, a un impact sur certains titres. Par exemple, Airwell, c'est un spécialiste des climatiseurs. Ce titre Airwell à la Bourse de Paris, il est coté. Il gagne 6%. Depuis une semaine, il gagne 15%. Et sur 3 mois, il gagne quasiment 30%. Airwell, voilà, on voit l'impact sur ces différentes valeurs. Vous, en tant qu'économiste, Juliette, comment est-ce que vous regardez les impacts possibles de cette canicule et notamment sur notre croissance ici en France?
Alors, on sait que chaque vague de chaleur qui intervient pendant l'été se traduit par une perte d'activité. D'abord, il y a la baisse de la productivité qu'on observe dans un certain nombre d'activités. Et puis, on a aussi des secteurs comme l'agriculture, la construction, qui sont vraiment très impactés par les vagues de chaleur. Si on reprend les vagues de chaleur de l'été 2025, la BCE avait estimé que ça avait conduit à des pertes économiques de l'ordre de 10 milliards d'euros en France. Et pour l'ensemble de l'Europe, c'était plus de 40 milliards d'euros. Donc, c'est pas tout à fait nul. Et puis, ce qui était nouveau dans cette étude d'impact, c'est qu'il disait que ces pertes de PIB étaient durables et qu'il n'y avait pas d'effet de rattrapage post-vague de chaleur.
Alors, il y a ce débat aussi sur la climatisation. Bon, ça devient presque religieux, mais si on raisonne juste en termes de productivité, est-ce qu'il est évident, juste sous l'angle de la productivité, après, elle peut avoir d'autres défauts, mais que oui, la climatisation est une forme de filet de sécurité pour la croissance et l'activité?
Alors, c'est vrai que la climatisation peut jouer sur la productivité, même si dans les activités de service, elle est quand même assez répandue. Alors, elle ne résoudra pas tout, parce que quand on a évoqué les secteurs qui étaient très sensibles au réchauffement climatique, comme l'agriculture ou la construction, on voit que là, c'est quand même un peu plus compliqué. Alors, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que plus globalement, le fait qu'on ait régulièrement des périodes de chaleur extrême montre qu'il est vraiment important d'investir dans l'adaptation au changement climatique. Pour l'instant, les financements climat sont vraiment ciblés sur la décarbonation des économies. Et l'adaptation au changement climatique, c'est vraiment le parent pauvre de la finance climat. C'est seulement 10% des investissements. Par exemple, en France, on n'y a consacré que 1,7 milliard d'euros en 2025, ce qui est vraiment faible. Rien que climatiser toutes les écoles de France, c'est presque 10 fois plus qui serait nécessaire.
Alors, bon, cela dit, on a quelques avantages en France, et en particulier notre électricité qui est très, très largement décarbonée. Est-ce que finalement, re-industrialiser en France, c'est un moyen aussi de décarboner et de produire avec des énergies plus propres et un impact inférieur sur l'environnement?
Oui, c'est sûr que réindustrialiser et puis utiliser de l'électricité qui est assez abondante et décarbonée en France, c'est aussi une façon de réduire l'impact climatique de l'industrie. Mais là aussi, en fait, il faut aller plus loin. L'enjeu des prochaines années, c'est de continuer l'électrification des usages. Pour l'instant, l'électricité, c'est 25% du mix énergétique français. Il faut que cette part croisse pour décarboner notre économie. Et donc, il faut investir dans l'électrification, à la fois dans les transports, l'industrie, les bâtiments.
Oui, ça peut paraître paradoxal, mais si on réindustrialise la France, on participe à combattre le réchauffement climatique. Parce que ce qu'on produit via la Chine aujourd'hui, et que la Chine produit pour nous avec du charbon, si on le rapatriait ici, si on le fabriquait ici sur le territoire, on arriverait à le fabriquer, mais sans charbon, avec du nucléaire, et en l'occurrence, ça émettrait moins de CO2. Faudrait-il réindustrialiser la France, ne serait-ce que pour sauver la planète? Frédéric Rosier est avec nous. Merci Juliette, on vous salue chez CPRM. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Mirabeau, le portefeuille BFM responsable, est-ce qu'il faut réindustrialiser la France pour sauver la planète?
Ah, c'est un bon sujet. Parce que c'est vrai que là, on a eu les chiffres dernièrement des émissions de la France de CO2 avec une trajectoire qui semble être encourageante. En même temps, la Chine, dont on est peu sûr de la qualité des chiffres, pour le coup, n'est pas forcément dans la même trajectoire. Donc, réindustrialiser, c'est déjà toute la chaîne d'approvisionnement qu'on supprime. On l'a vu d'ailleurs avec le détroit d'Ormuz, avec ces grands bateaux qui, la plupart du temps, sont encore sur des sources d'énergie fortement, en tout cas, en termes d'émissions, impactants. Et donc, effectivement, cette logique-là, et d'autant plus qu'on a une énergie qui est totalement décarbonée. Donc, on va dans ce chemin. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont sur cette trajectoire et un peu dans le sillage de ce qu'a fait Trump, mais dans une autre optique. Ça, c'était pas d'un point de vue environnemental, mais plutôt d'indépendance stratégique. On va effectivement, à mon avis, vers ce mouvement-là
de réindustrialiser. Pour arriver à réindustrialiser, il faut peut-être baisser un peu la fiscalité. Enfin, il y a plein d'enjeux qui seront au cœur de la présidentielle aussi. Mais c'est vrai qu'on est en train de découvrir que réindustrialiser la France, ça peut être en fait vertueux pour le climat. On a de vrais atouts là-dessus.
Oui. Oui, exactement. Alors après, je suis pas sûr que les grands acteurs de la logistique soient d'accord avec cet aspect-là, hein, puisque on sait, on a notamment de gros armateurs en France qui profitent finalement de ce mouvement-là du commerce international. Mais on sait, le multilatéralisme est en train de perdre des voix et qu'on est en train d'avoir une logique de remettre sur place avec des gros projets industriels. Hein. Je pense notamment à SoftBank, avec des projets d'envergure qui vont impacter bon nombre d'entreprises et certaines d'ailleurs qu'on a dans notre portefeuille. Oui, ça c'est la logique globale qu'on est en train de vivre.
Justement, quelle valeur du portefeuille dans ce monde idéal où la France arrive à se réindustrialiser, quoi, produire plus, quitte à effectivement se transformer fiscalement et tout. Quelles entreprises du portefeuille en profiteraient?
Il y a déjà des acteurs qui sont grandement situés en France. Safran, par exemple, est un acteur dont la majeure partie du chiffre d'affaires et de la production est en France. Mais vous avez des acteurs, par exemple, qui devraient bénéficier de ça. C'est Schneider. Pourquoi Schneider? Parce que Schneider, dans son métier propre de Schneider, il y a bien sûr l'activité data center, on a beaucoup évoqué ce sujet, mais il y a également l'efficience énergétique des sites de production. Donc, qui dit industrialisation dit également maîtrise de l'énergie, et maîtrise de l'énergie, aujourd'hui, on a un acteur mondial qui est Schneider. Donc, devrait bénéficier de ça. Et j'ai un autre acteur que je vois aussi, que j'identifie assez rapidement, c'est SPI, également dans l'infrastructure, qui devrait aussi bénéficier de tout ce phénomène d'industrialisation. Donc oui, on a quelques acteurs. On a à peu près, on va être 50% du portefeuille qui serait sensible plus ou moins à un phénomène d'industrialisation en France.
Le portefeuille BFM responsable, donc une vingtaine de valeurs, toutes éligibles aux critères ESG. Sur la semaine écoulée, il a gagné 1,2%, c'est un peu moins que l'Eurostoxx 50, mais enfin globalement, il surperforme quand même. Quel regard vous portez sur cette performance moment du portefeuille?
Alors, c'est une période assez particulière quand même. On a vécu une semaine, tout le monde avait les yeux rivés sur SpaceX, on a peu regardé finalement le marché européen, c'est la réalité pour tous. On avait tellement ce focus et cette focale sur SpaceX qu'on a oublié un peu de regarder les mouvements. Et on a vu quand même une grande disparité de mouvements sur le portefeuille. Et c'est un sujet. Aujourd'hui, on a eu une pression assez significative sur un acteur américain qui s'appelle Accenture, qui a fortement baissé, touchant un point bas. C'est un titre qui a perdu plus de 50% en un an. Et le corollaire de tout ça, c'est qu'on a un acteur aujourd'hui qui est un peu dans le sillage d'Accenture, qui nous pose problème en termes de performance, et on se dit...
Capgemini, voilà, qui est dans le portefeuille, qui a subi la publication d'Accenture, qui a encore baissé la semaine dernière, Capgemini, de 7%.
Ouais, et c'est vrai que la logique, c'était de dire ces entreprises viennent accompagner l'IA au sein des entreprises. C'était la thèse d'investissement, et on voit que ça accroche pas. Ça accroche pas, alors est-ce que ce phénomène de retard à l'allumage pour les entreprises et l'intégration de l'IA, peut-être on a été trop vite, ou est-ce que cette IA va venir détruire derrière quelque part une partie du métier des SS2I par exemple? Donc ça, c'est un sujet.
Capgemini, du coup, depuis le début de l'année, avec toutes ces questions existentielles que vous soulevez là, on est à moins 37% depuis le 1er janvier. Vous êtes en train de vous interroger sur l'opportunité de le maintenir?
On va trancher. Je pense que l'idée, c'est de dire... Alors, on a des sujets de réinvestissement. Une valeur en particulier, mais on a besoin, en tout cas pour ma part, d'approfondir l'aspect ESG, d'arbitrage. Donc, en gros, aujourd'hui, j'annonce qu'on sort Capgemini parce qu'on n'est pas dans un momentum favorable. C'est dur, mais il faut accepter ça. D'autant plus qu'on est performant depuis le début d'année. Donc, vous savez, une bonne gestion. Des fois, il y a des gagnants. Il y a surtout beaucoup de gagnants, mais on peut avoir des perdants. En l'occurrence, c'est Capgemini sur cet aspect-là. On va mettre un petit peu en pause. Et c'est vrai que dans les thèses d'investissement, Guillaume notamment, Chaloin, a suggéré une valeur. Hein, c'est revenir un petit peu sur des sujets comme Novo Nordisk.
Okay.
Il faut que j'approfondisse honnêtement l'aspect ESG, même si c'est une mieux-disante dans le secteur. Vous savez, le secteur de la santé, et notamment sur ces métiers et sur les molécules en phase de grand déploiement aujourd'hui à l'international, mérite peut-être un peu plus une vision ESG. Et donc, on va prendre un petit peu de hauteur avant de l'intégrer.
Donc, Capgemini, vous sortez dès demain matin de ce portefeuille BFM responsable. Et parmi les candidats pour succéder à Capgemini, Novo Nordisk, même si vous n'êtes pas encore complètement arrêté sur cette décision, faut voir si c'est assez ESG pour le portefeuille.
Vraiment, il faut regarder tous les aspects. Ouais. Il y a une partie gouvernance environnementale qui nous plaît. On va voir un petit peu au-delà si tous les aspects nous plaisent pour pouvoir l'intégrer.
Alors, un titre qui est un peu sorti du scope depuis des mois, mais qui atteint juste des plus hauts historiques, c'est AXA. Hein. Ouais. Plus 0,4%, on est à 42,68€. Est-ce qu'il n'y a pas un retour aux fondamentaux sur la géopolitique, sur l'IA. Qui c'est qui l'assure, l'IA? Sur le risque climatique, etc. Et AXA est vraiment au cœur de ces problématiques en ce moment.
Qui va piano, Vassano. C'est vraiment, ça a été une progression lente, ça n'a pas fait des éclats, mais effectivement, vous avez aussi un phénomène, vous savez que les assureurs, ce sont des gros porteurs obligataires. Et finalement, on a un phénomène où on a une remontée tôt, mais globalement absorbable parce que très lissé dans le temps. Donc l'impact négatif qu'on aurait pu avoir avec un choc obligataire, on l'a pas vécu. Donc AXA en tant qu'assureur, alors vous le savez, il y a deux métiers, il y a la partie dommage et assurance vie, assez bien équilibré dans l'ensemble de ces métiers, un peu tous les voyants ouverts aujourd'hui. Donc ça explique cette performance avec un bon rendement aussi. Donc le métier de l'assurance reprend un peu le pas d'ailleurs par rapport aux bancaires qui avaient un petit peu soufflé ces derniers temps.
AXA donc dans ce portefeuille BFM Responsable qui bat un nouveau record. Frédéric Rosier, l'un des trois co-gérants de ce portefeuille. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Et une idée en plus pour vos portefeuilles. Ça y est, on a rétabli la liaison. Marc Giraud avec nous, HMG. Rebonjour Marc.
Rebonjour Guillaume.
Positif, ça y est, ça marche mieux en effet. Vous avez 2 minutes 30 toujours Marc. On ne vous a pas enlevé le temps qu'on a pris tout à l'heure, on est sympa.
Merci.
Vous avez 2 minutes 30 pour nous parler de Worldline. Pourquoi croyez-vous en Worldline? Déjà, rappelez-nous ce que fait Worldline peut-être Marc.
Oui, Worldline, c'est une société de informatique en fait. Leur métier, c'est de construire et de faire fonctionner la tuyauterie informatique. Quand vous payez chez un commerçant, que ce soit en magasin ou en ligne, cette tuyauterie fait en sorte que le commerçant est crédité du montant de votre achat et que vous, vous êtes débité. Donc on ne voit pas ça, c'est entre le commerçant et la banque.
C'est l'une des pires performances de la Bourse de Paris quand même, Worldline, depuis des années. Qu'est-ce qui vous conduit à vous réintéresser à cette valeur?
Je m'intéresse à titre extrêmement spéculatif. Ce n'est pas vraiment une recommandation, c'est plus une interrogation que je me fais de revenir dessus à titre spéculatif. Ce que j'aime bien, c'est que les investisseurs et les analystes ont jeté l'éponge dessus. Worldline, c'est un accident industriel à la française, je dirais, avec un savant mélange de privé, de public, et puis des banques qui finissent par retirer leur soutien pour financer une croissance non rentable. Enfin, vous connaissez l'histoire par cœur, vous en parlez en permanence de ce genre de choses. Et de meilleures choses aussi, heureusement, sur BFM. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui dans Worldline, c'est pas tellement l'analyse financière. On peut pas vraiment faire une analyse financière parce que l'entreprise est en restructuration. Il est assez difficile de se faire une idée de l'évolution des comptes futurs. Ce qui m'intéresse, ce sont deux choses, deux constats très simples. Le premier, c'est que les trois principaux actionnaires, après la dernière augmentation de capital, avec un peu moins de 10% du capital chacun, sont maintenant la BPI, la BNP et le Crédit Agricole. Et j'ai envie de voir là-dedans un vrai soutien du système bancaire français, parce que la confiance des banques est, bien sûr, étant donné son métier, essentielle à la survie de Worldline. L'autre chose qui m'intrigue un peu, c'est que si je raisonne par comparaison, une comparaison très simple, avec des sociétés dans le même métier en Europe, Nexi, par exemple, Nexi qui est coté en bourse à Milan, Nexi vaut 4 milliards d'euros. Alors Nexi, c'est le Worldline italien. Nexi vaut 4 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros. Et ce titre Nexi, en termes de ratio, n'est pas cher du tout. Alors que Worldline vaut 600 millions en bourse, donc 7 fois moins que Nexi, pour un chiffre d'affaires de 4 milliards, qui est inférieur d'un tiers seulement. Je pense que... si on compare Worldline, qui est extrêmement déprécié par rapport à Nexi, qui lui-même est assez déprécié par rapport à son historique et au reste des valeurs italiennes, je me dis que si Worldline joue ses cartes correctement, il pourrait y avoir un potentiel de rattrapage.
Worldline, donc, pourquoi pas. Marc Giraud, merci beaucoup Marc de nous avoir accompagné, le cofondateur de HMG. Dans un instant, la famille BFM Bourse a suivi. Julien Marion nous rejoindra. On parlera à nouveau de Pierre et Vacances. Va-t-il quitter la bourse, ce titre Pierre et Vacances? Bientôt, le titre, il gagne 4%. On vous explique pourquoi dans un instant. On viendra sur deux CRSI qui, de son côté, perd un peu plus de 3%. A tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est la famille BFM Bourse, le seul endroit au monde où vous choisissez souverainement votre famille. Julien Marion est avec nous, BFMBourse.com. Bonjour Julien.
Bonjour Guillaume, bonjour Antoine.
Et Antoine Larigauderie, effectivement, en fil rouge. Messieurs, le CAC 40 recule de 0,3% en ce moment. On va en parler, bien sûr. Juste, c'est une journée difficile quand même pour les marchés parce qu'il y a le décès d'un homme important en histoire boursière quand même, qui aura marqué de son empreinte toute une génération d'investisseurs. C'est Alan Greenspan. Voilà, Alan Greenspan est décédé à l'âge de 100 ans tout à l'heure, Antoine.
Ça fait drôle, hein. 100 ans, longue vie, longue occupation. Et il y a même encore un mois, il était sur CNBC, bon pied, bon oeil. Bon. Mais voilà, un banquier central qui aura reformaté l'usage et le vocabulaire de la réserve fédérale américaine pour en faire un vrai acteur qui est au centre des marchés. Et puis voilà, auteur de quelques phrases qu'on retiendra à propos de... là, comment il disait ?
Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé.
Voilà, ça c'est ma préférée. Et puis l'exubérance irrationnelle quand il s'agit effectivement de cette course à la hausse des marchés, des courses à la valorisation qui sont encore une problématique qui se pose là en ce moment.
Oui, oui, adepte de la dérégulation financière, des taux d'intérêt bas, il a favorisé l'essor des marchés, mais a peut-être aussi participé à créer les conditions de la bulle de 2008, hein, de l'éclatement de la crise Lehman de 2008. Donc voilà, un bilan mitigé. Mais bon, Alan Greenspan est décédé, c'est quand même un morceau d'histoire. Il sera resté quasiment 20 ans à la tête de la Fed, Julien, de 1987 à 2006. Là. Il a enjambé le siècle, Alan Greenspan.
Moi, je trouve que vous avez assez bien résumé la situation. C'est quelqu'un qui a révolutionné la communication de la réserve fédérale et qui a quand même marqué une certaine rupture par rapport à Volcker, qui était quelqu'un qui accompagnait relativement la politique économique de Reagan.
Oui, oui.
Sur ce point. Maintenant, vous l'avez dit, un dérégulateur, quelqu'un qui a été obligé vers la fin d'admettre qu'en fait, son idéalisme économique avait des limites, on veuille ou non.
Voilà,
par rapport à d'autres banquiers centraux, ses successeurs en fait étaient des gens plus pragmatiques, hein, que ce soit Bernanke ou Janet Yellen, une grande économiste.
Et là où c'est intéressant, c'est que Donald Trump, quand il cherchait un successeur à Jerome Powell, il y a quelques mois encore, avant de nommer Kevin Warsh, disait « J'aimerais que le successeur de Jerome Powell ressemble à Alan Greenspan. » Ah, est-ce que Kevin Warsh peut être le nouveau Alan Greenspan? C'est une question qu'on se posera tout à l'heure dans le club à partir de 17h. Alan Greenspan est décédé, et vous me disiez à l'instant, Gaspati aussi, c'est ça, la chanteuse
Oui, la chanteuse Étienne.
Étienne.
Qui n'était pas banquière centrale,
on salue.
Pas ma connaissance.
Étienne Braque, tous les matins pour Good Morning Markets, bien sûr, pour l'ouverture des marchés. Romain Dobry est avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravis de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
On parlera de CRSI dans un instant avec Julien qui perd 3,3%, qui limite ses pertes cet après-midi, de CRSI que les particuliers suivent de très très près. D'abord, les forces en présence dans le marché, comment vous les sentez aujourd'hui Romain ?
Moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant à Paris, ça reste laborieux. On entame une nouvelle échéance trimestrielle. On a clôturé celle du mois de juin, vendredi dernier. C'est généralement une page vierge qui s'ouvre et c'est vraiment le cas ici. À Paris, toujours peu d'intérêt reconduit. On est toujours calé dans notre même zone de prix. On l'évoquera juste après. Ce qui est à noter, ce qu'on avait évoqué en fin de semaine dernière, c'est sur l'indice Eurostox, une grosse complaisance. On approche de cibles graphiques importantes, 6345 points. Et l'intérêt après l'échéance n'a pas été reconduit en gros. Partie. Il y a près de 30% de la position ouverte qui n'a pas été reconduite après le mois de juin. Alors qu'une partie de l'intérêt soit abandonnée après une échéance, c'est normal, mais 30%, ça fait partie des moments où c'est important. Ça veut dire que le moment est un peu, la page est un peu blanche pour entamer cette nouvelle séquence. Les opérateurs préfèrent bien se laisser des marges de possibilité, d'autant plus que le ratio put-call est hyper optimiste sur l'indice Eurostox. C'est moins le cas sur les indices américains où on a accompagné le mouvement avec du soutien et on est optimiste, mais pas aussi complaisant.
Romain, quels sont du coup les prochains seuils graphiques à suivre sur les marchés ?
À Paris, ça reste cette zone de prix importante en bas, le pied du gap du 13 juin à 8302. Le premier support important, on l'a testé, 8357. Il faut repasser 8506 points pour envisager une réactivation aussi un peu plus solide. Sur l'indice Eurostox, la résistance, c'est 6345 points. On l'a effleuré, mais on n'arrive pas à la déborder. Premier niveau d'alerte, c'est 6205 points. Et puis sur nos indices américains, le Nasdaq vient de buter contre une résistance clé, un niveau de réactivation haussier, c'est 30552 points. L'alerte, elle est lointaine, c'est 29670. Et puis pour avoir un dernier repère, si vous le voulez, sur le S&P 500, la résistance, c'est la zone 7500 points autour. On a tenté de la déborder, on repasse dans le rouge. Donc c'est vraiment un niveau charnière, le premier niveau d'alerte un peu sérieux, 7400 points.
Bon, Romain, il y a une société qui vous intéresse. Là, c'est en forte hausse, hein, quasiment 6% de progression. C'est Bilindi, un spécialiste de l'intégration de l'IA, notamment pour ce qui est études online. Alors, c'est assez pointu. Ça fait partie éventuellement des sociétés qui peuvent se retrouver éparpillées par l'IA d'une certaine manière. Mais voilà, la bourse semble y croire et il y a du potentiel, visiblement.
Il y a du mieux. Effectivement, ça reconstruit depuis les points bas formés au mois de mars dernier. On forme une structure qui est en passe, une structure de retournement haussière qui est en passe d'être validée, un double bottom ou un rounding bottom, comme on veut le voir selon la configuration, avec cette ligne de coup de la figure qui est située à 16,90. Si on arrive à clôturer au-delà de ce niveau, sur plusieurs clôtures journalières ou encore mieux en clôture hebdomadaire, on a un potentiel haussier qui est assez significatif pour aller chercher dans un premier temps et à minima 20,20. C'est le même type de structure qu'on avait enregistré par exemple sur STM à l'époque. Alors je compare pas les deux, mais c'est pour vous donner la possibilité de rattrapage qu'a le titre, qui a quand même beaucoup baissé depuis ses sommets du mois de mai 2025.
Et ce titre, cette valeur, Romain Daubry, qui doit, mais alors Romain, crever de chaud là. Vous êtes dans le centre-ouest, vous êtes exactement là où il fait 42-43. Ça va, tout se passe bien malgré tout, Romain, ou c'est compliqué là?
Non, tout se passe hyper bien. Je suis très bien protégé.
Bon, ben heureusement pour vous. 42-43, chaud. À tout à l'heure, Romain, on vous retrouvera à la clôture des marchés à 17h35. Le CAC 40 perd 0,3% à l'instant. Et donc, Julien, parmi ces valeurs à suivre aujourd'hui, on va parler de CRSI dans un instant. Julien, d'abord, Pierre et Vacances, va-t-il quitter la cote? Vous y consacrez un article complet sur bfmbourse.com. Le titre gagne 3,7% après une offre amicale, nous dit-on, d'un groupe d'Abu Dhabi.
Et Mubala Capital. Il y a un an, quasiment jour pour jour, ils avaient expliqué, Pierre et Vacances, qu'ils étaient engagés dans ce qu'on appelle les options stratégiques. C'est en fait une revue stratégique, pardon. C'est un mot un peu compliqué pour expliquer qu'en gros, ils cherchaient un nouvel actionnaire. La raison est simple, Pierre et Vacances, il y a une importante restructuration financière qui a été opérée en raison de la crise sanitaire qui avait complètement mis au tapis leurs finances. Donc, il y a eu une phase de redressement où ils ont été accompagnés par des fonds qui, eux, étaient dans cette logique de redressement. Sauf que maintenant, on passe en mode conquête. Pierre et Vacances, les bénéfices sont revenus il y a deux exercices pour la première fois depuis 10 ans. Donc là, le bateau il est lancé. Donc on a besoin de passer en mode conquête. Donc on a besoin d'avoir un actionnaire qui soit finalement sur une logique de long terme et pas de redressement. D'où le fait de chercher cet actionnaire qui va entrer au capital à la place des fonds. Et comme on savait tout ça depuis un an, on savait qu'il cherchait notre actionnaire, il y a eu pas mal de caractères spéculatifs. Ce qui explique qu'aujourd'hui, malgré cette OPA, le titre affiche une progression finalement assez légère. Et d'ailleurs, un peu décevante en termes de prix.
Parce que tout à l'heure, Thibault François nous disait c'est carrément décevant. Oui, c'est amical que pour les actionnaires majoritaires, parce que pour les actionnaires minoritaires, là, la prime n'est pas énorme. Quand même.
Bah, non, on est sur du 2 euros s'ils arrivent à sortir le groupe de la côte. Je cite juste les estimations de TPI Cap Mid Cap qui évoquaient en fait un prix de 3,2 euros. Donc effectivement, ça n'a pas l'air dingue.
Ouais, c'est sûr. Pierre et Vacances qui va peut-être devenir un groupe émirati. Donc voilà. Mais accélérer ainsi sa montée en gamme, parce que c'est l'enjeu. Hein. C'est un groupe relativement classe moyenne, légèrement supérieur, voilà. Et il y a un petit gouffre peut-être entre eux et Club Med. L'idée serait peut-être de venir combler ce gap qui les sépare du Club Med, pas d'aller vers du haut de gamme type Club Med, mais venir juste entre classe moyenne et Club Med, quoi. C'est peut-être l'idée.
Je sais pas trop, je vais être honnête avec vous. Ouais. Effectivement, vous avez raison, la premiumisation est l'un des principaux axes du plan. Donc ça, il n'y a pas de question là-dessus. Maintenant, en termes de gamme, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas été dans un Maeva ou un 7 en Parks. À titre personnel, je ne peux pas vous dire. Vous savez certainement ça mieux que moi, Guillaume.
Non, je n'ai jamais mis les pieds dans un Center Park, figurez-vous. Par contre, Sabrina Salgui, qui vous accompagne, il va très régulièrement. Il faudra lui demander quand elle reviendra. Ouais. De CRSI, une autre valeur qu'il faut suivre de très très près. De CRSI, la semaine dernière, avant d'être suspendu, Antoine me regarde, perdait 43%. Parce que le fond, il me regarde comme ça, mais qu'est-ce que tu fais? Mais Luc, dis-le, on est en famille et qu'on parle librement, quoi. On est bien, là. On y va, on a pro. Et donc, de CRSI, qui, c'était jeudi, faisait l'objet d'une attaque du fonds Grizzly Research, perdait 43, ça a été suspendu de cotation. Ouais. D'après Grizzly Research, le chiffre d'affaires de CRSI est trafiqué. Et donc, depuis, le titre a été suspendu. Il a repris, sa cotation. Il recule à nouveau aujourd'hui de 3,3%. Ce matin, il perdait 20%. Comment vous regardez et surtout, comment vous trouvez que la communication de la direction a été, quoi? Comment la direction, depuis vendredi, s'est comportée? Est-ce qu'elle vous a paru plutôt convaincante, d'après Julien?
On perdait 35% même, à un moment donné. Donc là, en gros, si vous voulez, je pense que la direction a eu l'intelligence, entre guillemets, de demander ses suspensions et donc de se donner le temps de répondre, entre guillemets, point par point. Quand on regarde, il y a certaines choses sur lesquelles ils ont eu raison d'insister, notamment le fait que leurs comptes sont validés par Ernst & Young et pas par un petit cabinet, seulement par un petit cabinet indépendant. Donc, eux, ils réfutent les accusations, évidemment, de trafic, comme quoi, en fait, finalement, l'essentiel de leurs revenus proviennent de fraude. Ils ont aussi, en fait, réussi à battre en brèche une logique, en fait, sur laquelle j'ai l'impression que le vendeur a découvert s'est trompé en expliquant qu'en fait il prenait en fait deux choses différentes dans la comptabilité. Il y a surtout un contrat qui a été mis en cause, et sur ce contrat ils expliquent qu'en fait aucun revenu n'a été reconnu jusqu'à présent et que ce contrat, en fait, il semblait venir d'une partie d'un vétérinaire qui a mis en place des sociétés fictives et sociétés fictives auraient été en lien avec le directeur général qui aurait été cofondateur d'une société, celle qui reçoit le contrat. Ça, ils expliquent que non, c'est pas le cas. Donc je pense que là-dessus ils sont convaincants. Maintenant, il y a un truc. Très sincèrement, on est dans une situation compliquée en tant que journaliste observateur, parce que c'est difficile de séparer les vins du bon gras. Il y a un truc sur lequel on peut peut-être un petit peu être en désaccord avec eux, c'est quand ils expliquent qu'en fait, sur les projets liés à ce contrat, en fait, c'est pas eux qui font le calendrier et que la faisabilité technique, en fait, c'est pas leur ressort. C'est vrai, c'est pas leur ressort. C'est quand même un sujet pour le marché. C'est là-dessus, en fait, si vous voulez, où on peut se poser la question. Il y a quand même, Ports en part, sans dire en tout cas qu'ils ont été convaincants. Eux, ils disent qu'ils réitèrent leur confiance dans la direction et qu'en plus, la vertu des stat-attaques du vendeur à découvert, c'est qu'ils ont davantage communiqué. Maintenant, quand vous regardez la réaction de marché, on va pas se mentir, ça prend pas tant que ça. Je veux dire, on est quand même en baisse, même si là, a priori, ils ont quand même réussi à couper un petit peu l'hémorragie, ça rebondit pas. Donc, à mon avis, le marché, il attend encore un peu avant d'acheter complètement la défense.
Ouais. On y reviendra. Émeric Blon sera avec nous à la clôture des marchés de 17h35 pour un troisième avis au cœur de BFM Bourse sur ce titre de CRSI qu'on suit en fil rouge. La question du jour, parce que vous faites tous partie de cette famille, la voici sur les réseaux sociaux X et LinkedIn. Vous pouvez tous voter, participer. Keir Starmer démissionne. Ouais, c'est l'autre info du jour. Le Premier ministre britannique quitte ses fonctions après moins de 2 ans à la tête du 10 Downing Street. Entre la livre sterling, la devise britannique, et l'euro, laquelle de ces devises souffre le plus des atermoiements politiques? C'est la question. Donc, après la démission de Keir Starmer, demain, ça fera 10 ans que le Brexit a été voté par les Britanniques. Laquelle de ces deux devises souffre le plus de l'instabilité politique? Est-ce l'euro ou la livre sterling? Antoine, Julien, qui veut se lancer en premier? Julien.
Ouais, j'y vais sans problème. La livre sterling est sans aucune hésitation. Okay. L'euro, en fait, les atermoiements politiques que nous avons dans certains pays, donc la France, on va pas se mentir, sont trop dilués au sein de la zone euro. Et pour que ça joue vraiment. On peut quand même aussi parler de l'Allemagne, mine de rien. Alors, Friedrich Merz a une majorité, ça c'est pas la question, mais les remous qu'il y a autour de la mise en œuvre du plan de relance peuvent jouer un petit peu. Et d'ailleurs, je me demande si ça joue pas plus que l'instabilité politique en France, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, tout ça pour dire qu'en zone euro, c'est trop dilué. Et le bloc donne une certaine force à la monnaie. Ce qui n'est pas eu tout le cas au Royaume-Uni, où pour le coup... Enfin, combien de premiers ministres on a eu depuis le Brexit? Bon, c'est les 10 ans, d'ailleurs.
On était à 6, on va être à 7.
Cette semaine.
C'est un record. On aura 7 premiers ministres en 10 ans.
Il me semble. En comptant Burnham, je crois qu'on est à 7, effectivement.
J'ai compté le nombre de premiers ministres qu'aura eu Larry the Cat, Larry le locataire du 10 Downing Street, vous savez, le chat.
Le chat, oui. 7. Sur les réseaux sociaux. Ouais.
7. 7. Il en aura 7 avec le futur.
Je vais compter à côté, mais... Si. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'hésitation sur le fait que c'est la livre sterling qui
Ok, Antoine, pour vous, laquelle de ces deux devises souffre le plus des atermoiements politiques?
Même réponse, la livre sterling, surtout qu'on a vu qu'il suffisait d'un mauvais budget pour mettre en échec et mat l'ensemble des fonds de pension du pays et mettre le Royaume-Uni en situation de crise financière potentielle. On l'a vu avec ce qu'on a appelé le fameux instant Liz Truss. Je veux dire, de manière systémique, la finance au sein du Royaume-Uni est tellement importante que dès qu'il y a un véritable problème qui touche la crédibilité du pays, paf, tout s'arrête et tous les investisseurs retirent leur bille. Enfin, c'est très compliqué. Il y a un précédent. L'euro, il y a eu la crise des dettes souveraines. J'ose espérer que ça n'arrivera plus, mais voilà, sur la livre sterling, il y a cette fameuse prime Liz Truss qui pèse toujours.
Exactement, et on va regarder vos réponses à vous tous. Vous êtes d'accord avec Antoine et Julien. Ouais. 84% vous dites que c'est la livre sterling qui souffre le plus des atermoiements politiques, plus que l'euro. L'euro a seulement 16%. Alors, le 10 ans britannique, c'est vaguement tendu tout à l'heure quand on a appris la démission de Keir Starmer, mais pas plus tendu que ça, déjà parce qu'on l'avait vu venir, cette démission. Et puis, celui qui est annoncé comme son successeur, Andy Burnham, prévient qu'il respectera les règles budgétaires du gouvernement. Parce que ouais, certains se disent qu'il pourrait ouvrir les vannes là, et faire de l'assouplissement budgétaire, compte tenu qu'il est reproché à Keir Starmer d'avoir serré les coups au contraire. Donc son successeur pourrait au contraire rouvrir la boîte à aide sociale, etc. Au contraire, dit Andy Burnham, nous nous engagerons, quand nous prendrons le 10 Downing Street, à respecter les règles budgétaires du gouvernement. Et ça participe à rassurer un peu le marché, le 10 ans britannique, donc ne se tend pas particulièrement malgré l'annonce du départ de Keir Starmer. On en reparlera dans la suite de BFM Bourse. Julien, à Paris, la lanterne rouge, on va en dire un mot quand même, parce que vous y consacrez en plus un article, bfmbourse.com, c'est Hermès. Ouais, c'est Hermès qui signe la plus forte baisse, c'est pas tous les jours que ça arrive, moins 5,5%. Pourquoi ce titre recule-t-il autant?
C'est pas tous les jours, mais ça commence malheureusement à se multiplier pour Hermès. Ce qui se passe, tout simplement, c'est que vous avez, a priori, c'est ce qu'on dit dans la liste, la conférence téléphonique avant la blackout période, vous savez, la quiet period, durant laquelle l'entreprise ne peut communiquer. Ils ont fait une conférence et les analystes, en fait, ont sorti des notes. Et ces notes ne sont pas forcément très positives. Juste un titre rappel, Hermès, ça avait vraiment déçu le marché et c'est vraiment un euphémisme que j'emploie au premier trimestre. On avait une croissance de mémoire de 5,6%. Hermès, c'est du 10%, hein, normalement, dans la tête des gens. Mm-hmm. Là, pour le premier trimestre, Barclays vous dit qu'on va accélérer, mais très timidement. On serait à 6,4%. Ouais. C'est encore un nouveau trimestre compliqué pour Hermès. Il y aura encore le Moyen-Orient, mais il y a aussi de la faiblesse en Chine, en Asie-Pacifique plus exactement. C'est ça. Et donc, en fait, là, le marché qui avait déjà des doutes sur la croissance structurelle d'Hermès, ça remet une pièce dans la machine. D'où le fait que, que ça recule.
On parlait même, c'est vous qui en parlez, d'algorithme de croissance d'Hermès. On se disait, waouh, ils ont un vrai algorithme de croissance. Là, il est de plus en plus remis en cause, quoi, en quelque sorte.
Tout à fait. Ça, là, pour le coup, je cite des analystes qui datent en fait du premier trimestre, mais qui disaient qu'en fait, c'est Bernstein qui vous disait qu'en fait, ce qui fait la force d'Hermès, c'est qu'on reste sur quelque chose qui ne se réinvente pas. Mais eux se demandent si, à force, c'est pas un peu la question qui va. C'est le marché, les gens, les acheteurs, la mode. Ne va pas finir par s'enlacer. Est-ce qu'il n'y a pas un problème autour de cela? Alors, la direction avait répondu en disant que clairement non. Mais voilà, la question, elle mérite d'exister. Et je citerai UBS, ça c'est une question qui se pose depuis maintenant un an. La question qui se pose, c'est maintenant que, vu qu'Hermès progresse autant et que la taille augmente, est-ce qu'au final, le fait d'avoir une marque qui est de plus en plus omniprésente, eh ben, ça ne la dessert pas un peu? Quand une marque est trop présente, est-ce que finalement, ça ne réduit pas son attrait?
C'est bien d'être difficile, la référence. Hein. Ouais, c'est bien d'être la référence, mais il ne faut pas trop l'être, quoi.
Mais c'est difficile parce que le but d'une marque, c'est quand même de croître.
Ah oui.
Donc,
article complet sur notre site. Il est 16h51. Chaque jour, un expert de marché vient participer à cette famille, à ce conseil de famille. Aujourd'hui, c'est Benoît Lombard qui nous rejoint, le président de Vincera, pour combattre le consensus. Bonjour, Benoît.
Bonjour, messieurs.
Ravi de vous retrouver.
Je
vous laisse vous asseoir tranquillou.
Merci.
L'IA rend les marchés et rendra les marchés beaucoup plus efficients. Certains le pensent, pas vous, vous vous dites bullshit. Vous foudroyez en effet cette idée que l'IA augmenterait l'efficience boursière, c'est-à-dire
D'abord, c'est quoi des marchés efficients? Donc, c'est l'hypothèse que, en réalité, le prix des actifs, il correspond à la somme des informations qui est disponible relativement à ce prix et qui permet de le juger. Et donc, ce qui signifie deux choses. La première, c'est que, bien évidemment, si on a une efficience de marché, on a un prix qui est réel, c'est la bonne valorisation, première incidence. Deuxième, c'est difficile de battre le marché, puisque tout le monde a la même somme d'informations. Ouais. Ça, c'est une théorie moderne, quand même, qui a été créée, qui a été développée par Eugène Fama, prix Nobel de l'économie. Bah oui, c'est important, un peu d'histoire toujours, et ça dépend d'une théorie sur la spéculation qui date de Louis Bachelier en 1900. C'est important, quand même, de savoir que c'est une vieille théorie qui a des détracteurs.
Ouais, mais un marché qui exécute plus vite, c'est un marché où on trouve toujours un acheteur et un vendeur instantanément. Et l'IA va apporter de la liquidité à tout ça. Vous pouvez pas cracher sur ce confort de
marché. Non, mais je ne crache rien. Je dis juste qu'il y a des biais comportementaux. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'IA? L'IA, ça traite un volume énorme de données de manière extrêmement rapide. Et ça le restitue. Mais l'IA, en tant que telle, travaille aussi sur des modèles, sur des bases. Et ces modèles et ces bases, il y en a deux ou trois sur lesquels il travaille. Il y en a moins de trois, je crois trois. Donc, sur lequel elle se repose. Et en réalité, elle leur crée des schémas auto-réalisateurs. À tel point, par exemple, que si jamais on regarde le S&P 500, 38% de la performance du S&P 500 repose sur les 7 magnifiques. Donc, ça veut dire qu'il y a 493 valeurs qui ne sont pas dans les modèles. Et, juste si on reprend sur les 7 magnifiques, c'est 60% quand même des gains, des plus-values engendrées sur S&P 500. Tandis qu'il n'y a que 31% de résultats sur ces mêmes valeurs-là, qui représentent, je rappelle, 38% du poids de la capitalisation du S&P 500. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas ne pas être dans ces valeurs, y compris si elles ont des niveaux de valorisation élevés. Et qu'est-ce que fait l'IA? Elle auto-génère, elle a un schéma auto-réalisateur, si je puis dire. Alors, on me dirait toujours, les tracteurs, oui, mais enfin, si l'IA réussit, c'est bien la cause même du fait que l'IA fonctionne. Mais si l'IA échoue et se trompe, eh bien là, c'est parce qu'il y a des facteurs anxiogènes, exogènes, qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle n'a pas. Et c'est bien là la difficulté. C'est qu'elle ne travaille que sur des bases, que sur des données passées. Et elle reproduit le système.
Et que dit là-dessus l'ESMA, le régulateur européen?
Alors justement, faites bien de le dire, parce que l'ESMA s'est emparé quand même. L'ESMA, c'est l'AMF européen. L'ESMA s'est emparé de ces problématiques avec deux rapports qu'elle a publiés récemment, là, le 20 février et le 26 février. Elle dit, attention, la première chose, c'est que nous, on n'a pas d'IA en Europe. Donc on est dépendant de modèles qui ne sont pas les nôtres. Ça, c'est quand même un point qui est fondamental. La deuxième chose, c'est que l'IA risque, ça c'est dans ce deuxième rapport, d'amplifier les crises et de faire un scénario autoréalisateur et donc de générer des multi-cracks, des petits cracks. On en a eu deux exemples. On l'a eu en décembre dernier à Chicago, sur l'argent, moins 11% en une journée, pour des raisons inexpliquées.
Ce qui sur l'argent est dingue.
Donc, non mais c'était inexpliqué, on ne savait pas pourquoi, sinon par le fait même que c'était IA autogénérait un schéma moutonnier. Puis la deuxième, c'est sur le Bitcoin. Vous savez que j'adore le Bitcoin. Le 10 octobre 2025, on a eu moins 14% en une journée pour des raisons qu'on n'arrivait pas à expliquer, sinon que justement, les machines se sont emballées, si je puis dire, parce que certaines y avait des positions vendeuses, et que tout le monde a, de manière un peu illusoire, se fondant sur le même modèle, amplifié cette crise.
Ce n'est pas les algorithmes ni l'IA qui créent les mauvaises nouvelles économiques. Alors, elles peuvent les amplifier, mais les bonnes les amplifient à la hausse aussi. Hein, mais, et puis à la fin, ça fait une moyenne.
Non mais, oui, ça, c'est à supposer qu'on travaille sur les mêmes fondamentaux. Moi, je prends l'hypothèse du fait qu'on a naturellement des scénarios économiques, financiers, qui reposent sur des modèles, que l'IA s'empare de ces modèles, et que il n'y a pas de diversification, il n'y a pas de y a une homogénéité, on va dire, de l'information qui est traitée de la même manière. Et ça, ça va à l'encontre, justement, d'efficience des marchés, qui repose sur le fait qu'il y a une multitude de canaux d'information, de traitement de cette information, qui fait que s'il y a des acheteurs, ben, il y a des vendeurs. Donc, et quand il y a moins de vendeurs que d'acheteurs, ben, on a des cours qui montent. C'est QFD.
Julien.
Très bien, mais à supposer donc que l'Europe régule et que Wall Street et la Chine accélèrent, au contraire, et pourquoi eux, ils ont raison et nous, on aura tort?
C'est une question d'interrogation. C'est de se dire, on parle de souveraineté régulièrement. Donc, où est notre souveraineté dès l'instant où on repose, où ça repose sur des modèles qu'on ne contrôle pas? Où est la diversification de l'information et dans le traitement de l'information à partir du moment où on a, je rappelle, 70% du marché qui se trade de manière automatisée à la milliseconde.
Mais imaginez, Wall Street et l'Asie utilisent l'IA et voilà, et cela apporte un plus ou un moins au marché, et nous on reste de côté. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a plus de risques à rester de côté qu'à intégrer cet outil?
À un moment donné, il va falloir qu'on se pose, vous savez, dans l'IA, on ne va pas avoir que des gagnants. Les dot-com, en 99, tout le monde achetait à partir du moment où ça avait un .com. Aujourd'hui, on achète beaucoup d'IA, il n'y aura pas que des gagnants. Mais néanmoins, on investit sur ces valeurs-là qui ont des niveaux de valorisation qui sont, excusez-moi du peu, mais sortent des standards communs.
Bon, cela dit, il y a énormément de gérants et de pros des marchés qui utilisent déjà l'IA pour optimiser leur performance, pour les aider dans la gestion au quotidien. Bon, vous prêchez un peu pour que l'humain reste présent aux commandes.
Moi, je dis oui, bien sûr. Donc, et on le voit du reste depuis quelque temps. Pourquoi les small caps sont si, on va dire, sous-valorisées? Parce qu'elles sont pas dans ces modèles-là. Parce qu'il est plus facile d'acheter du Nvidia, du Tesla ou de l'Alphabet, sans faire de publicité, que d'acheter une valeur inconnue de la cote sur laquelle il y a moins d'informations. Moi, je dis juste que l'IA, c'est formidable pour traiter maximum d'informations. On va plus vite, mais est-ce que c'est plus juste? Je m'interroge. Et cette interrogation mériterait une réponse.
C'est Benoît Lombard. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Ou quand il l'a, c'est qu'il ne va pas très bien. Mais vous avez l'air plutôt d'aller très bien, Benoît.
Merci beaucoup. Malgré cette grande chaleur.
Oui, vous avez souffert pour
venir. Non, parce que quand je suis dans ce plateau, c'est formidable.
Ouais, on est bien là.
C'est bon, ouais. Je vais rester là tout l'après-midi.
Vous avez affronté le vent du Sahara là, pour arriver. Benoît Lombard, le président de Vincera. Merci beaucoup, Benoît, de nous avoir accompagnés. C'est la fin de ce conseil de famille. Merci à Julien Marion. À demain, Julien.
À demain.
Vous nous accompagnez toute la semaine, Julien. Et à tout de suite, Antoine, pour la dernière demi-heure de cette séance qu'on va vivre ensemble, bien sûr. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.